Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi, Radio Grenouille. Le mensuel Le Ravi, c'est dans tous les kiosques de la région. Les premiers vendredis du mois, la Grande Tchatch, c'est tous les quatrièmes mardis du mois sur les 3-8. Le Ravi, c'est également un site internet www.leravi.org, site où vous pouvez avoir accès à certains articles depuis peu et également vous abonner. Donc pour commencer ce numéro de la Grande Tchatch, le dernier de l'année, un invité, pas n'importe lequel, il est au centre de l'échiquier politique, c'est le secrétaire général adjoint du MoDem, vice-président à la communauté urbaine de Marseille, en charge du tourisme, mais pas que, c'est Christophe Madrol, bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, Christophe Madrol, c'est le portrait de l'invité, une émission présenté par Michel Guéraud et Raffi Amal, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Année électorale ou non, il y a une tradition en France, marquer la trêve des confiseurs entre le 24 et le 31 décembre. Mais au Ravi, le mensuel régional du Santon qui ne baisse jamais les bras, on ne respecte vraiment rien. Pas question donc de reporter la diffusion d'une grande tchatch programmée un 27 décembre. Il nous fallait, pour faire face, un invité hors norme. Un homme politique capable de rivaliser avec le barbu ventripotent, la bûche, la dinde et la revue du Crazy Horse le soir du réveillon. Il nous fallait Christophe Madrol. Centriste, central, comme le MoDem. Le canard enchaîné vient de vous décerner sa noix d'honneur. Vous avez déclaré, désormais, les Français sont au courant que François Bayrou est candidat et pourront ainsi en parler en famille pendant les repas de Noël et de fin d'année. Qu'on se le dise, c'est la crise, mais on va se marrer dans les chaumières. Quelques auditeurs égarés s'interrogent. Qui est Christophe Madrol ? Éducateur spécialisé, débarqué à Aubagne il y a plus de 20 ans, issu d'une famille de 68ards, tout à tour adhérent des amis de la nature, des amis de la terre, votre entrée en politique est aussi alternative que discrète. Votre première candidature aux législatives en 93 sous le label Utopia se solde en effet par un score de 0,7%. Vous rejoignez ensuite Génération Écologie, période Noël Mamère, puis Les Verts. Vous devenez attaché parlementaire de Jean-Luc Benamias au Parlement européen. À Marseille, vous présidez plusieurs années le groupe des Verts au conseil municipal. 2007 est un tournant. Vous succombez au charme vénéneux du Béarnais, de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et de la France profonde. C'est le début de l'aventure exaltante du MoDem. Avec ses hauts, comme vos 6% lors des municipales en 2008, où Godin et Guérini vous courtisent entre les deux tours, pas de chance, vous optez pour le deuxième, battu, ce qui vous vaut toutefois un lot de consolation avec une vice-présidence à l'agglomération marseillaise. Il y a aussi débat à la traversée du désert, comme les 2,5% de votre candidate Catherine Levrault au régional en 2010, dont vous êtes le directeur de campagne. Mais l'heure est à la fête. À 44 ans, vous figurez désormais parmi le premier cercle de François Bayrou, ceux qui ne l'ont jamais lâché, une fidélité récompensée par le titre de secrétaire général adjoint du MoDem. Votre président est donné à 14% dans les intentions de vote. Une étude qualifiée de sondage de la dinde, c'est-à-dire celui que l'on va commenter en famille à Noël. On y revient. Vous êtes définitivement le ravi de la crèche.
Christophe Madrol, un commentaire sur ce portrait à la sauce ravi.
Non, commentaire très sympa. Voilà, bon, voilà. Bon, c'est Noël, c'est dans 3 jours le jour de l'an. Voilà, bonne fête à tous.
Bonne fête à tous. Un mot peut-être sur ces 14%, un score à 2 chiffres pour François Bayrou, énième fois candidat, la deuxième. La deuxième, c'est la bonne ?
Oui, ça sera la bonne. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est clair, il y a un désaveu de la politique menée par Sarkozy depuis 5 ans, et c'est tant mieux. Ensuite, il y a un manque d'entrée en campagne de François Hollande. Et je crois que les Français sont comme n'importe quel citoyen, on les rencontre tous les jours. Ils ont un peu marre du clivage gauche-droite qui amène aucun résultat. Oui, la gauche existe, oui, la droite existe, mais aujourd'hui, il y a la crise. Aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Et le seul, effectivement, qui depuis 5 ans donne des solutions, c'est François Bayrou. Donc aujourd'hui, c'est l'heure, effectivement, de discuter pour le 31 décembre au soir de François Bayrou.
Alors on va essayer durant cette émission de comprendre où est le centre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça recoupe, qu'est-ce que ça porte comme valeur. Mais Bayrou a eu vraiment une attitude très critique.
Je ne sais pas si le centre, si vous voulez parler du centre, ce n'est pas moi le meilleur invité. Moi je suis et je reste un homme de gauche. J'ai fait le choix de François Bayrou parce que le schéma et le système politique qu'il propose de rassembler des hommes de centre-gauche, de centre-droit, des écologistes pour pouvoir faire avancer la France m'a intéressé. Je reste un homme de gauche avec les valeurs qui sont les miennes, qui m'animent, la solidarité, la justice sociale, un combat contre le capitalisme. Je reste le Christophe Madrol des Verts. Aujourd'hui, il est au MoDem. Il reste le même.
Alors justement, là, vous me tendez un petit peu la perche.
Je vous en prie, Hervé.
On reviendra, bien entendu, à la question de Michel Guéraud.
Je vais finir sur l'explication par rapport à Michel.
Oui.
Voilà. Donc, définir qu'est-ce que c'est que le centre, c'est pas moi le mieux placé. Inviter François-Xavier de Peretti, mais moi, je reste effectivement le même. Je
Alors
pas
justement,
changé.
Christophe Madrol, ma question porte là-dessus. Votre champion, en l'occurrence Bayrou, a affirmé qu'il se prononcerait cette fois-ci pour l'un ou l'autre des candidats s'il n'était pas au deuxième tour. Vous le suivriez s'il optait, par exemple, pour un candidat de droite, vous diriez...
Bien sûr que non. Bien sûr que non, je n'irai jamais, Jean-Luc Benamias et moi nous l'avons dit, nous irons jamais soutenir Nicolas Sarkozy. Nous sommes opposés à la politique qu'il mène, et on pourra énumérer les réussites de Nicolas Sarkozy depuis 5 ans, les reconduites à la frontière.
Donc vous êtes porte-parole voilà. d'un candidat que vous êtes susceptible de lâcher au second tour.
Ah mais oui, mais aujourd'hui on joue le premier tour. Je souhaite que François Bayrou soit le président de la République parce que ce qu'il propose pour la France me convient. Si effectivement il n'est pas au second tour, avec Ben Amias et d'autres copains, je crois majoritaires au sein du MoDem aujourd'hui, on fera le choix qui s'impose. Je n'irai jamais avec Nicolas Sarkozy. J'irai plus loin encore, Afi. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que ce que je n'ai, comme je vous dis tout à l'heure, j'étais responsable des Verts des Bouches-du-Rhône. J'avais le choix, soit à finir en psychiatrie, soit quitter les Verts. J'ai fait le choix de ne pas donner de l'argent à la psychanalyse et j'ai fait le choix effectivement de pouvoir construire le MoDem sur ce que proposait François Bayrou. Donc Nicolas Sarkozy, ce n'est pas imaginable que je puisse rallier le panache de la droite et de la droite populaire. On la voit à l'offensive tous les jours dans les Bouches-du-Rhône.
Michel Guéraud.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de schizophrénie, justement, à défendre un candidat qui n'a pas fait son choix, enfin qui laisse ouvert la possibilité de s'allier avec la droite ? Vous dites, je suis un homme de gauche, mais je soutiens un candidat qui dit, mais pourquoi pas, Sarkozy, en tout cas, je ne tranche pas maintenant, c'est ouvert, ce jeu-là est
Michel,
ouvert.
Michel, est-ce que vous croyez qu'un homme qui a écrit un brûlot contre Nicolas Sarkozy, il y a un an et demi, est-ce que vous croyez qu'un homme qui aujourd'hui défend les valeurs qu'il défend, de justice sociale et tout ce qu'on peut trouver dans les secours de François Bayrou, est-ce que vous pouvez penser qu'il puisse rallier Nicolas Sarkozy?
Oui, non, mais Christophe Madrol, là, on parle de politique. Je rappelle aux auditeurs, il y a quelques années de ça, vous avez été mis sous tutelle par Ben Amias, ici au Vert.
Vous êtes un fin historien de l'histoire des
Verts. Ça ne vous empêche pas aujourd'hui d'être son attaché parlementaire et d'être son collaborateur au sein du MoDem. Donc, c'est la politique. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas forcément demain.
Nous verrons bien. Vous savez, nous vivons une expérience extraordinaire dans la vie politique. Et en tant que politique, je vis une belle histoire dans la construction et dans l'histoire du MoDem. Voilà. Nous verrons bien le soir du premier tour. Si François Bayrou n'est pas sélectionné pour le second tour, je ferai mon choix. J'espère que ce sera le même choix que François Bayrou. Je le souhaite sincèrement. Si François Bayrou souhaite soutenir Nicolas Sarkozy, très bien. Nous quitterons bon ami. Nous aurons vécu 5 ans très bien, mais comme dans une histoire d'amour qui se sépare.
Vous n'allez quand même pas changer de candidat et de parti à chaque élection présidentielle, non ?
Non, mais j'ai jamais changé de candidat et de parti. Simplement qu'à un moment donné, on a construit une
2007,
dynamique.
Oui.
Pourquoi en 2007, Rafi ?
Après les présidentielles, vous êtes passé des Verts au MoDem ?
Parce que je ne me reconnaissais plus dans ce que proposait Dominique Voynet.
Donc,
mais je crois qu'il
n'y
a pas
2012,
beaucoup de Français.
Vous allez
à un moment donné, voilà, je pense
que
l'élection présidentielle, c'est l'élection majeure de notre système, qui va définir la politique menée pendant 5 ans. Soit qu'on reste dans un système dogmatique, à se taper la tête contre les murs, la candidate ou le candidat que je soutiens va droit dans le mur. Je n'ai pas fait le choix de continuer avec les Verts pour ces raisons-là. Parce que j'ai considéré, dans mon histoire politique, que ce que proposaient les Verts, à l'époque, pas Europe Écologie, mais les Verts, et l'histoire me donne raison aujourd'hui avec la candidature qu'ils proposent, qu'on préférait effectivement défendre d'autres valeurs que celles que je défendais de justice sociale, environnementale, etc. Je retrouve cela chez François Bayrou. Mais je suis convaincu que François Bayrou sera là au second tour.
Mais c'est le candidat Kinder. Vous dites aux électeurs, votez Bayrou, vous verrez bien finalement avec qui il va travailler, avec qui il va se rallier.
Mais les électeurs font ce qu'ils voudront. Les électeurs sont libres. On propose un projet de société avec François Bayrou. Est-ce que les
mais
Français...
Mais avec qui vous allez le construire, ce projet de société ? Avec la droite ou avec la gauche ?
Mais pourquoi ? Eh bien, nous verrons si on est capable de construire un axe central, si les électeurs mettent François Bayrou au second tour. tout le monde vous dit que François Bayrou sera élu président de la République. Parce qu'effectivement, c'est la candidature.
Le MoDem le croit. Pour l'instant,
du MoDem. Rafik, tous les spécialistes oui. Vous êtes, vous savez très bien que si François Bayrou est sélectionné pour le second tour, ce qui se passe là, il sera élu président de la République. À ce moment-là, on construira cet axe central. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, dans notre 5e République, passer à autre chose?
D'accord.
Le souhait, effectivement, c'est de dire, nous construisons un axe central qui réunisse toutes les bonnes volontés et qu'on sort des dogmatismes stériles entre le centre-gauche, centre-droit, écolo. Oui, il y a des salopards à droite, comme il y a certains salopards à gauche.
J'ose pas vous demander les noms.
Pas des noms.
Exactement, François Bayrou dit, si je suis élu, j'essaierai de composer une espèce de gouvernement d'union nationale, on peut l'appeler comme ça.
C'est de l'esprit de l'union nationale.
Et je puiserai, parmi les députés de bonne volonté, à droite comme à gauche.
Parmi les hommes politiques, de gauche comme de droite, pour pouvoir effectivement avoir les meilleures personnes aux meilleures places. Quand on construit une équipe de foot, quand on construit une équipe de hand, quand on construit une équipe journalistique, on essaye de prendre les meilleures personnes aux meilleures places. Voilà. Ouais. Je pense qu'une équipe gouvernementale, c'est ça. Et je crois, vous savez, pendant 7 ans, j'ai été conseiller municipal de Marseille. Je suis vice-président de la communauté urbaine aujourd'hui. Nous avons eu des gros combats avec Godin sur beaucoup de sujets. Et là-dessus, j'ai toujours été d'une transparence et d'une force énorme. Seulement, je reconnais à Jean-Claude Godin qui peut être à l'écoute de certaines choses. Il y a des combats qu'on doit mener, mais à un moment donné, si on avait réussi, et si Jean-Claude Godin avait eu l'intelligence politique d'élargir sa majorité aux dernières élections, on n'en serait pas dans une situation aussi dramatique aussi dans la paupérisation de Marseille. Mais c'est un autre débat.
Bon, on en reviendra de toute façon à cette espèce. Pour rester sur les électeurs, leur choix ou leur non-choix, cette indécision, est-ce qu'il vous semble qu'elle va poser un problème? On a vu Europe Écologie qui, eux, se positionne clairement en disant au deuxième tour, nous, ça sera la gauche.
Évidemment, ils sont négociés. Est-ce que vous avez déjà vu, dans quelque part, qu'on payait les musiciens avant le bal? Europe Écologie, je sais même pas pourquoi ils prennent une candidature.
On a payé, il me semble que le MoDem avait payé un petit peu les musiciens avant le bal au municipal. Alors c'est une élection locale, bien entendu. Le dernier municipal ici à Marseille, non?
Mais attendez, on a fait une liste autonome avec Jean-Luc Benhamias, contrairement à d'autres. La seule liste autonome aux élections municipales, qui n'était pas issue d'un grand parti, était la liste menée par Jean-Luc Benhamias. Elle a fait, Michel nous le rappelait, 6%. Ce qui est pas mal pour une élection municipale. Quand vous voyez tous les jours dans le journal quotidien, que je nommerai pas ici, effectivement, tous les jours, du Godin, du Guérini, du Guérini.
Il y avait d'extrême-gauche sur Marseille qui avait fait un assez bon score.
Mais pas dans tous les cercles, pas dans tous les secteurs, Michel. Mais je reconnais effectivement que la liste menée par nos amis de l'extrême-gauche ont fait un très bon score, mais pas dans tous les secteurs. Et ils ont refusé de fusionner après.
Restons sur le national, Michel Guéraud.
Oui. François Bayrou a fait toute sa carrière à droite. C'est un homme de droite.
Mais pourquoi un homme de droite?
Parce que c'est le cas. Des sondages disent que les Français l'imaginent s'allier à droite. Enfin,
j'ai les sondages devant moi. 70% des gens qui pourraient voter MoDem viennent plutôt du centre-gauche.
Oui, alors, 57%. Un autre sondage, Christophe Madrol, c'est le baromètre IFOP Paris Match qui est paru il y a 2 semaines. Majorité de sympathisants du MoDem souhaitent la victoire de la droite en 2012.
Ah, vous le sentez d'où ce sondage? J'ai pas eu moi.
IFOP Paris Match.
Ah bah, j'aime plein de services de com du MoDem parce qu'ils m'ont pas filé celui-là. Je doute pas pourquoi ils m'ont pas filé.
Oui. Donc là-dessus, on voit quand même qu'il y a une dichotomie entre.
Je crois que la vie politique, et ça c'est vraiment sincère par rapport à ce que je pense aujourd'hui. Et ça peut évoluer, parce que je pense que la politique évolue. Ces clivages gauche-droite n'ont plus tellement de signification. Comment on peut définir qu'est-ce qu'est un homme de gauche et qu'est-ce qu'un homme de droite? Quand on voit ce qui peut se passer avec certains hommes de droite qui prônent certaines valeurs de justice sociale et des hommes de gauche qui sont dans des difficultés un peu fortes sur des affaires, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut faire attention à qu'est-ce que c'est que la gauche et qu'est-ce que c'est que la droite. Moi, je crois que ce dogmatisme est dépassé.
Alors venons-en un petit peu au fond. Les critiques majeures qu'a justement opéré François Bayrou sur le programme du PS, il a dit qu'il est insoutenable ce programme. C'est une critique d'hommes de droite. Enfin, Bayrou critique la retraite à 60 ans, les emplois jeunes, les 70 postes d'enseignement, l'allocation générale d'autonomie pour les étudiants.
Michel, je crois qu'Hollande aussi est revenu sur la retraite à 60 ans.
Effectivement.
Donc est-ce que Hollande est un homme de gauche ou pas? La question
oui,
est là.
Mais François Bayrou dit Hollande est quelqu'un de bien, le problème c'est le Parti Socialiste. On peut se
poser
la question.
Je sais pas, quand effectivement aujourd'hui dans cette période de crise.
Sur le fond, ces critiques-là, c'est des critiques
Pourquoi c'est une critique d'homme de droite?
D'un libéral, le PS est trop étatiste, le PS va faire trop de dépenses publiques, le PS.
Mais moi, ça ne me gêne pas. Quand je vois aujourd'hui que la droite veut remplacer un fonctionnaire sur deux au niveau de la retraite, je trouve ça complètement scandaleux parce qu'effectivement, il y a des secteurs de l'éducation, comme l'éducation, où on ne doit pas. Où on doit remplacer systématiquement toutes les personnes qui, parce qu'on a besoin de personnel dans l'éducation, personnel enseignant, personnel infirmière, psychologue, etc., etc. Simplement, François Bayrou dit la même chose. À un moment donné, on ne peut pas faire des propositions de remplacer 60 000 dans le projet du Parti Socialiste et 60 000 remplacements, etc. Comment on les finance? La question, c'est comment on finance la dette. Voilà. Est-ce que on est en mesure aujourd'hui de pouvoir accompagner un projet de société dans la façon dont on propose le Parti Socialiste? Je ne crois pas, parce que quand le Parti Socialiste fait ces propositions-là, c'est des propositions qui ne sont pas chiffrées. On n'a pas le droit de mentir à aux citoyens aujourd'hui. La France est en crise, il y a des choix à faire, et faire des vœux pieux comme le font aujourd'hui le Parti Socialiste ou l'UMP, c'est nous amener droit dans le mur.
Et quand Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche dit que voter Bayrou, finalement, c'est l'application des recettes du FMI au niveau local, à la maison?
Bon, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amitié pour Jean-Luc et tous ses partenaires. Bon, Jean-Luc a des excès de langage, c'est son fonds de commerce. Voilà, bon, après, il a le droit de dire ce qu'il veut. Je peux raconter aussi des anecdotes qu'on a vécues avec Jean-Luc pendant des années, avec Jean-Luc Mélenchon, pas Jean-Luc Benamias. Voilà, bon, voilà, c'est ses excès de langage à Mélenchon. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour l'homme. Je pense qu'il exagère largement parce qu'il a effectivement un fonds de commerce à faire vivre. Bon, voilà.
En quoi se distingue la rigueur de Bayrou, de la rigueur de Sarkozy, de la rigueur de Hollande? Est-ce qu'on n'a pas affaire finalement
à des petites nuances? Si vous considérez effectivement, si vous mettez Hollande, Bayrou dans le même sac, je peux vous dire effectivement qu'il y a des points communs sur la façon dont ils souhaitent mener la France pour sortir de l'endettement. Je ne mets pas Bayrou, Hollande avec dans le même sac que Sarkozy. Parce que Sarkozy, effectivement, c'est le libéralisme à tous les niveaux d'échelle. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas promettre et faire des vœux pieux en disant tout et n'importe quoi au moment où la France a une crise. Quand j'entends Eva Joly proposer les 32 heures, j'étais de ceux qui, à l'époque de René Dumont, proposaient effectivement...
Mais oui, oui, il n'y a pas si vieux que ça, quand même.
Eh bien, si, excuse-moi, mais j'étais étudiant, et rappelez-vous, vous voyez, rappelez-vous, c'était de travailler 32 heures pour travailler tous. D'accord ? On n'en est plus aux 30 glorieuses. Proposer la semaine des 32 heures, comment elle le finance ? La question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation de crise planétaire. On sait très bien que les responsabilités sont partagées entre le grand capital, les banques, etc., etc. Simplement qu'on n'a pas fait gaffe aux dépenses publiques. D'accord ? Aujourd'hui, il faut pour arriver, non pas à un plan de rigueur, mais à faire attention aux dépenses publiques.
On joue sur les mots, là, parce que c'est quand même... Le hausser les impôts, baisser les dépenses.
Augmenter la TVA de 3 points ou de 5 points. D'accord ? C'est que quand ouvrir une tranche supplémentaire à l'impôt pour les personnes qui gagnent plus d'argent. C'est les propositions de Bayrou. Ou les propositions de Hollande, d'ailleurs. Parce qu'il y a du coller-copier, souvent. Les socialistes font du coller-copier sur ce que propose Bayrou comme le produit français. C'est assez hallucinant aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a besoin de sortir la France de l'endettement. Donc il faut trouver les moyens de sortir de l'endettement. Donc l'histoire de la TVA, l'histoire de créer une nouvelle tranche pour ceux qui gagnent le plus, je trouve que c'est normal et ça fait partie de la justice sociale.
Mais les 60 000 emplois de professeurs dans l'éducation nationale proposés par François Hollande, ça vous dites non, c'est pas raisonnable.
Non, Rafi, j'ai pas dit ça. J'ai dit, justement, il y a deux secteurs où il ne faut pas baisser le personnel. C'est l'instruire, c'est l'éducation et la santé. Ça, je serais intransigeant par rapport à ça. Simplement qu'il faut effectivement faire des économies, donc voir dans quel secteur on peut faire des économies sur le problème de la masse budgétaire qu'il y a par rapport à l'État. Voilà, je ne suis pas un économiste, j'en sais rien. Il y a d'autres économistes qui travaillent, il y a d'autres propositions. Il y a Olivier Ferrand avec Terra Nova qui a fait des propositions. Je les ai lues il n'y a pas longtemps. Je pense que ces propositions...
C'est quand même le think tank des socialistes, Terra Nova.
Oui, attendez, Rafi, entre vous et moi, je crois être le deuxième ou troisième adhérent à Terra Nova avec Olivier, qui est un vieux copain, parce qu'on a une histoire comme avec certains ici.
Et qui débarque à Salon de Provence.
Oui, qui est candidat pour les socialistes à Salon de Provence, oui, pour les législatives. Michel Guéraud ?
Travailler moins, c'était pas une bonne idée alors pour travailler tous
C'était super. Le projet en 74 était nickel. Si on avait adopté.
Donc c'est fini là, c'était l'ère de l'utopie est terminée. Il faut administrer.
Il faut gérer, Michel. Je pense qu'effectivement.
Du sang et des larmes?
Non, pas du sang et des larmes. Non, je pense qu'effectivement, il faut le gérer. On est en une période de crise. Il faut donner les moyens effectivement de résoudre la crise. En 74 jusque dans les années 81, on pouvait imaginer, et je me souviens très bien de tous les textes que l'on faisait avec Utopia, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec les Verts, sur les 32 heures ou même sur les 28 heures. C'est-à-dire travail. On partageait le temps de travail. C'est-à-dire qu'il y avait une masse à faire, on partageait à deux ou à trois, etc. Donc on baissait le temps de travail. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens. Comment on finance l'heure de travail? Comment on finance l'entreprise? Je suis d'accord pour baisser le temps de travail, utopiquement. Mais derrière, il faut savoir, et c'est le principe de réalité, comment on le finance. Aujourd'hui, je n'en sais rien.
Alors la retraite à 60 ans non plus, c'est une vieillerie, donc il faut renoncer.
C'est un combat. La retraite, ça doit être un objet. On doit revenir. Comme l'histoire de sortir du nucléaire.
On va y arriver.
comme sortir du nucléaire, qui est effectivement encore un de mes combats. Et on peut pas dire qu'on sort du nucléaire aujourd'hui. On peut pas revenir à la retraite à 60 ans. Ça doit être un but de pouvoir penser revenir à la retraite à 60 ans quand on aura rééquilibré les comptes de l'État. Pareil pour le nucléaire. On sortira du nucléaire, il faut se donner comme objectif sortir du nucléaire dans 30 ans. On va résoudre, on va développer le photovoltaïque, on va développer les énergies nouvelles, et à ce moment-là, on va pouvoir trouver les moyens de financement, Michel Fini, trouver les moyens de financement, effectivement, et on est le 27, et vous l'avez dit, on n'invite pas le 27 décembre un politique pas extraordinaire. Je dois concurrencer le crétin de la crèche ou le ravi de la crèche, ça me gênait. Voilà.
Bon, Bayrou sur le nucléaire, ça fait partie des points qu'il a mis en avant pour dire que ce programme du PS était insoutenable. Je ne comprends pas ce que l'écolo, j'allais dire l'ancien écolo, non, l'écolo qui est toujours écolo devant moi, peut considérer comme porteur sur ce dossier-là dans ce que dit...
Il avance, mais vous savez, c'est fascinant de faire...
Quel est le problème alors? Hollande a trop concédé, c'est ça? Dire réduire de 75% à 50% la part du nucléaire, c'est trop ambitieux? C'est ce que dit Bayrou? Parce que Bayrou dit qu'il faut réduire l'effet de serre.
On est entre nous, et puis les auteurs de Radio Grenouille, les lecteurs du Ravi aussi, ils savent très bien, ça s'est fait sur un coin de table, cet accord entre Sapin et Placé, c'est deux personnes estimables que je respecte énormément, voilà. Ils avaient plus intérêt à discuter conscription que fond du programme. Et puis ils se sont rendus compte effectivement qu'il y avait certains problèmes dans ce qu'ils avaient signé. C'était un accord à la va-vite.
Bon, d'accord, mais Bayrou, qu'est-ce qu'il défend lui?
Alors, par rapport à Bayrou, il chemine. Alors c'est extraordinaire. Au départ...
Comme Mélenchon alors avec le Parti communiste.
Il chemine. Et alors que Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou soient des hommes intelligents et qui n'aient pas de certitude, et que l'apport que l'on amène Benamias, Verling et moi au sein du MoDem, ils le prennent en compte. C'est très bien. Vous savez, rien n'est pire aujourd'hui que quelqu'un de certitude. Bayrou, il chemine. Sur le nucléaire, il chemine. Croyez-moi qu'on a des réunions avec Benamias, Verling et même Marielle de Sarnez. On se chauffe pas mal avec François Bayrou pour le faire arriver à prendre conscience que le nucléaire n'est pas une bonne ressource énergétique.
Parlons clairement quand même sur ce dossier. Bayrou, chemine, d'accord, je l'entends, mais il a moins cheminé que François Hollande.
Il part de loin.
Il est en deçà.
Part de loin.
Oui.
Il part de loin.
Sur les retraites aussi, on en a parlé. Sur les emplois, les postes enseignants aussi. On a un Hollande un peu moins à gauche, c'est ça? C'est ça la différence un peu plus
mais pourquoi voulez-vous systématiquement prendre comme maître étalon François Hollande? Alors là, ça fait faire un compliment à François Hollande quand je dis maître étalon.
On essaie de comprendre où se situe François Bayrou sur l'échiquier des valeurs, sur le programme, alors, sur ce qu'il va faire.
Reprenez ces deux derniers livres. C'est les deux seuls que j'ai lus. Donc ça va pas très loin.
Je vais vous prendre les deux livres de François Bayrou.
Je vais vous les offrir pour... le 31 décembre.
Mmh. Avec plaisir.
Oh, j'ai coupé la voix.
Non, voilà, on essaie de situer Bayrou sur l'échiquier des valeurs. On a l'impression, les 4-5 points qu'on a pris, qu'il était effectivement... Alors, désolé, mais c'est un repère. En France, c'est comme ça. Il est plus à gauche que Sarkozy. Il n'y a pas photo. Moins libéral, oui, c'est clair.
Est-ce qu'il est plus à gauche que Manuel Valls ou moins à gauche que Manuel Valls? Est-ce qu'il est plus à gauche ou moins à gauche que Montebourg? Est-ce que, par exemple, il est plus à gauche ou moins à gauche sur l'adoption des enfants des couples homosexuels que Martine Aubry? Allez, vous voyez, c'est compliqué. Quand j'entends Martine Aubry dire que l'adoption, elle s'est pas encore par rapport à l'adoption des enfants des couples homosexuels, est-ce que sur des valeurs sociales ou sociétales, est-ce que Bayrou est plus à gauche ou moins à droite?
Pour l'adoption par les couples homosexuels?
Oui, il est pour l'adoption. Il n'est pas pour le mariage, il est pour l'union avec les mêmes droits pour les couples homosexuels, sur la même position que François Hollande.
C'est quoi la subtilité?
Il considère que le terme de mariage...
Il vient de la démocratie chrétienne.
Oui, il considère que le terme de mariage, un peu sur la même position qu'Hollande, le terme de mariage, le mot mariage, c'est pour un couple hétéro. Mais il est favorable à que les mêmes droits pour les couples homo, les couples hétéro. Voilà.
Et que les mariages ou les unions se passent en mairie plutôt qu'en préfecture ?
Oui, pas la mairie, ça, c'est un truc, mais qu'ils aient les mêmes droits, les mêmes, voilà, la même chose, mais que le terme de mariage soit que pour les couples hétéros.
D'accord. Bah voilà, une avancée, Michel ?
Je sais pas, au dossier, par exemple, localement, enfin, la communauté urbaine, vous avez voté pour la gestion publique de l'eau. Est-ce que ce point...
Oui. Oui, mais oui. On s'est prononcé avec Benavides, oui. On a été sur la position d'Europe Écologie Les Verts.
Exactement. Voilà. Donc, alors, quelle est la position nationale du MoDem sur ce dossier ?
Il est sur notre position. Bayrou est sur notre position, regardez.
Un service national de
regardez, l'eau. Regardez ce qu'il a fait par rapport à l'eau quand il était président du conseil général du Béarn. Je ne sais plus, de Pyrénées, le plomb à chaque fois, Pyrénées. Pyrénées.
Désolé.
Mais c'est des contrées un peu exotiques.
C'est vrai pour nous. Il a relocalisé tous les marchés de l'eau qui avaient été passés avant. Il les a relocalisés. Il a remis effectivement dans le cadre d'un GIP le conseil général partie prenante de la distribution de l'eau avec la ville de Pau. C'est une technique.
Toujours pour essayer d'avoir une démarche plutôt pédagogique vis-à-vis des auditeurs, de ceux qui veulent comprendre un peu ce qu'est ce MoDem nouvelle version 2012. On a vu qu'il y a un débat au sein du Parti Socialiste. Est-ce qu'il faut plutôt aller vers Mélenchon ? Est-ce qu'il faut un petit peu gauchiser son discours ? Ici, on a un député local, Dominique Tian, qui lui tient le discours inverse en disant au président de la République qu'il faut se droitiser davantage pour ratisser le plus large possible. Qu'est-ce que le MoDem, qui représente une sorte de centrisme, que vous le vouliez ou non, peut faire ? Les portes et les fenêtres, elles penchent vers qui ? Parce qu'il faut quand même, au bout d'un moment, ratisser un peu plus largement que ses adhérents. Et c'est sympathisant.
J'ai pas compris la question, Harry.
D'accord. Alors, au moment où la gauche se pose la question, est-ce qu'il faut gauchiser son discours, et où la droite se pose également la même question, est-ce qu'il faut droitiser son discours, est-ce que le MoDem, lui, se pose ce genre de questions, ou est-ce qu'il reste fixe sur son propre discours, avec ses propres militants, ses sympathisants et son électorat, qu'on le veuille ou non, qui est extrêmement volatile ?
Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit en début d'émission.
Si, recommencez.
J'ai recommencé, Rafi. D'accord ? Je comprends que...
Si je repose la question, c'est que c'était pas très clair.
Je comprends que la dinde est mal digérée le 27 décembre.
Alors, allez-y.
C'est clair, on est favorable à un axe central. Je comprends qu'aujourd'hui, que certains au Parti Socialiste souhaitent aller voir du côté de Mélenchon pour gauchiser leur discours. Je comprends que... Parce qu'ils ont besoin d'avoir des voix d'extrême-gauche pour pouvoir être présents au second tour.
On a du mal à fixer au niveau des alliances. Par exemple, est-ce que les...
Mais pourquoi vous voulez... Pourquoi des alliances ?
Un autre candidat...
Mais sortez de ce schéma.
Je veux bien, moi, sortir de ce schéma, Christophe Madrol. Mais je vous rappelle quand même que depuis 2007, les électeurs ne vous ont absolument pas suivi, que ce soit au municipal, au régional, au cantonal, aux européennes. Les gens ne comprennent pas votre positionnement.
Prenez pas les Français pour des cons. Vous voyez, Michel rappelait tout à l'heure en début que aujourd'hui François Bayrou est crédité de 14%.
C'est un sondage. Je parle de la réalité arithmétique des élections.
Nous verrons bien le
2,5%.
Nous verrons bien. Ce type a rassemblé 18% des voix à la dernière présidentielle. Mmh. Aujourd'hui, donc fin décembre, il est à 14%. Laissons faire le discours des hommes politiques. Je ne sais pas qu'est-ce que François Hollande va dire sur tel sujet ou tel sujet. Je ne sais pas qu'est-ce... Ne parlons pas d'alliances. Les alliances, Rafi, seront valables pour les législatives. Ils ne sont pas valables pour les présidentielles.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi, Radio Grenouille, avec aujourd'hui Christophe Madrol, Michel Guéraud.
Il y a quelques années, peut-être Christophe Madrol nous aurait parlé de la présidentielle, des présidentielles comme étant la pire des élections parce que incarné par un seul homme. Et... Bon, est-ce que la force de François Bayrou, c'est pas ça, c'est sa personnalité. Les sondages marquent une adhésion à une personnalité. Dans le cas d'une élection très personnifiée, est-ce que c'est pas ça la force du MoDem et sa faiblesse aussi ?
C'est effectivement la force et la faiblesse du MoDem. On sait très bien que le MoDem a été construit, et c'est pour ça qu'avec Benamias, on a rejoint Marielle de Sarnez, François Bayrou et d'autres pour construire le MoDem, parce qu'on est membre fondateur. C'était pour le combat de la présidentielle. Et rappelez-vous ce que j'avais dit à l'époque, pour battre Sarkozy. Pour moi, ça a été le traumatisme de voir Nicolas Sarkozy, président de la République, avec tous ses ministres fantoches qui l'ont accompagné depuis 5 ans. Et on le voit encore aujourd'hui. Malheureusement, on a vu Claude Guéant venir à Marseille faire des déclarations honteuses par rapport à la jeunesse de Marseille et qui a tout choqué. J'avais réagi dans la presse à ce moment-là. Bon, voilà, le MoDem s'est construit par... Je souhaite qu'il y ait effectivement un nouveau projet de société pour battre Nicolas Sarkozy. pas pour faire, forcément pour faire élire François Hollande. C'est pour ça, tout à l'heure, quand Rafi nous parlait des alliances, je ne suis pas de ceux qui disent, pour l'élection présidentielle, il est l'heure de faire des alliances. Nous verrons bien pour les législatives. Bien évidemment, pour les législatives, le scrutin pousse à l'alliance. Pour la présidentielle, c'est un homme qui s'adresse à un peuple.
Michel ?
Voilà, donc un homme qui s'adresse... Donc... Vous êtes dans une écurie présidentielle, en fait. C'est
bien
ça,
sûr.
Le MoDem.
J'ai jamais, jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Le MoDem s'est construit pour préparer l'élection présidentielle. Nous avons eu des élections intermédiaires et Rafi a eu la gentillesse de nous rappeler les scores. Donc, à partir de là, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas été brillants. On a fait un beau score, je considère, au municipal, parce que 6% dans les conditions où on a dû monter les listes comme ça, avec 303 noms dans tous les secteurs, avec un bastonnage de la presse locale qui jouait simplement Guérini-Gaudin, Gaudin-Guérini. Ensuite, nous avons eu les élections européennes où Jean-Luc Benamias a été élu député européen, et nous rappelons le débat qu'il y a eu entre Dany et François Bayrou, ou qui a été dramatique pour François Bayrou. Ensuite, nous avons eu l'échec des régionales.
Vous étiez à l'origine, paraît-il, non ? C'est vous qui avez prévenu, on peut dire aujourd'hui ?
Non.
Comme Bendit, Bayrou allait parler de ça ?
Je garde énormément d'amitié pour Dany, parce que Dany fait partie plus que ça de ma famille, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration et d'amitié
mais
pour Dany.
Mais c'est pas vous qui avez téléphoné
Non, parce qu'on ne se téléphone pas avec Dany, parce qu'on se parle. Mais là, sur le sujet, on ne s'est jamais parlé de sujet. D'ailleurs, on s'est fait des bisous avec Dany, je vous rassure.
Le salopard aux méthodes staliniennes, hein, c'est la petite phrase qui circule, qui est restée dans les mémoires.
Monsieur m'a googolisé. Bien sûr, je n'ai pas accepté, effectivement, que Dany me livre en pâture. Parce que Dany est un homme adorable, on le connaît tous. Mais il a un certain niveau de perversité politique pour en être où il est. Bon, voilà, bon, il a joué un peu le fossoyeur de François Bayrou. Je vais rappeler quand même que François Bayrou et lui ont été amis longtemps au Parlement européen. Ils ont eu beaucoup de combats communs. Et puis, arriver à une situation comme nous l'avons vécu en direct pendant un débat chez Chabot, c'était pas terrible et ça rehaussait pas l'image qu'il avait de François Bayrou et que François Bayrou, l'image qu'il avait de Dany Cohn-Bendit.
En plus, la mode aujourd'hui, d'après Bayrou, c'est de consommer français, de la haine, français presque. Qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne ? Vous ne trouvez pas que c'est un peu petit bras à l'heure de la mondialisation ? Même si on en voit les effets négatifs, c'est quand même pas aller contre l'histoire, non ?
Rafi, je vous adore, plus tout le temps. Mais François Bayrou n'a jamais parlé de consommer français.
Il
a parlé de produire français. C'est toute la nuance. Voyez comme c'est insidieux ce que vous dites.
Non, mais attendez, vous produisez français, ça suggère quand même de consommer français.
Non, parce que vous pouvez avoir
toujours dans la schizophrénie du modèle.
Vous pouvez avoir des entreprises marocaines qui sont installées en France, d'accord ? Et qui produisent. Qui produisent des biens avec de la main-d'œuvre française. Voilà. À un moment donné, tous les pays européens ont un certain niveau de protectionnisme. La France n'a pas ce niveau-là. Il peut très bien y avoir des entreprises chinoises, marocaines, tunisiennes, arméniennes qui soient installées dans le 14e arrondissement et qui produisent avec de la main-d'œuvre française, qui produisent des Français. Ils font travailler des ouvriers français. Pourquoi pas ? Mais à un moment donné, on peut avoir un certain niveau patriotique dans notre façon de fonctionner. Patriotique.
On aura tout entendu quand même de Christophe Madrelle, l'héritier de 68, qui évoque des termes comme le patriotisme. Michel Béraud.
Alors, je tente ma chance, mais un mot sur l'élection cachée, l'élection législative, qui suit quand même de très près l'élection présidentielle. Alors, je sais bien que vous allez me dire que ce n'est pas le moment d'en parler. Enfin, tout le monde s'en occupe. J'imagine que le modèle... Non, pas du tout. Il n'y a pas de discussion. Non, il y aura des candidats.
Je peux vous dire, à scoop, parce qu'on est le 27 décembre. Il y aura 16 candidats dans les 16 circonscriptions. Voilà.
Vous allez en trouver 16 ?
On va faire passer une petite annonce sur eBay ou sur Prime Minister, c'est l'époque. Au lieu de revendre des cadeaux de Noël, on va faire passer une petite annonce. Donc on lance un appel sur
vous-même, sur les candidats, Christophe Madrelle ?
Je ne sais pas encore. Sincèrement, Rafi, je ne sais pas. Si je suis candidat,
le dernier qui nous a dit sincèrement, je ne sais pas, en nous le répétant 4 fois, c'était Jean-David Ciotte. Et 2 jours après, il se déclarait dans la presse qu'il était candidat.
Alors, je serai candidat, je ne sais pas encore où.
Oui, vous serez candidat pour les législatives.
Oui.
Voilà.
C'est pas un scoop ?
Magnifique. Vous discutez avec les autres centristes, désolé, hein, mais ils existent. Il y a Arlette Fructus localement, il y a...
Qui ça ?
Madame Fructus, parti Borloo.
Les radicaux.
Jean-Louis Borloo.
Radical. Non, je ne les connais pas.
Aucune discussion.
Non, je ne les connais pas.
C'est quand même une attitude très...
Mais attendez, mais pourquoi voulez-vous discuter ? C'est très bien, la maison de la campagne de François Bayrou est ouverte. S'ils veulent venir, ils connaissent mon numéro de téléphone. Pour l'instant, Jean-Louis Borloo est toujours, ses amis sont toujours à l'UMP.
Je suis toujours étonné de voir des candidatures centristes qui sont aux ordres du château de Sarkozy. Je crois que François Bayrou, même si vous considérez que c'est un homme de droite, a rompu avec Nicolas Sarkozy, n'a pas voté avec Nicolas Sarkozy.
Enfin, il n'a pas appelé non plus à voter Ségolène Royal, clairement. Au deuxième tour en 2007, il n'a pas appelé à voter Ségolène Royal.
Moi non plus. Voilà.
Et tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'à l'UMP, il y avait des gens bien aussi. Donc, comment reprocher aux amis de Jean-Luc Borloo, j'ai pas dit.
Vous voyez comme c'est rigolo. Je n'ai pas dit à l'UMP, il y a des gens bien. J'ai dit, vous m'avez posé la question à droite et à gauche. J'ai répondu, à droite, il peut y avoir des gens bien. J'ai pas parlé de l'UMP. Quand vous êtes à l'UMP.
Pourquoi ne pas discuter avec eux alors?
Je vous réponds, allez jusqu'au bout. Si vous me dites à l'UMP, je vous réponds qu'au sein de l'UMP, quand on est encarté à l'UMP, on est tributaire de la politique menée par l'UMP, soutien de Nicolas Sarkozy. Quand vous êtes à droite, vous n'êtes pas forcément à l'UMP. Je connais plein de gens à droite, d'accord, qui se disent à droite, qui ne sont pas encartés à l'UMP. Voilà, voilà, c'est clair. Il y a des gens à gauche qui ne sont pas forcément tous encartés au Parti Socialiste.
Un mot peut-être sur
c'est dur ça à comprendre. On va se réveiller.
Encore une fois, Christophe.
Est-ce que vous pensez que tous les gens de droite sont des soutiens à l'UMP? Est-ce que vous pensez que tous les êtres de droite, c'est soutenir Nicolas Sarkozy?
Je m'interroge sur votre stratégie pour
les. Non, mais attendez, répondez-moi, Michel.
Je me demande pourquoi.
Non, mais attendez.
Pourquoi? Reprenons.
C'est pas à lui de vous répondre.
Mais si, c'est intéressant comme débat.
C'est pas l'invité de l'émission. Non, mais.
On en fera une autre.
On l'invitera.
On s'interroge parce qu'encore une fois, il faut les rappeler, c'est que les électeurs eux-mêmes, l'électorat du MoDem est un électorat extrêmement volatile. On ne sait pas qui il est. Est-ce qu'il va se coaguler pour ces élections-là ou pas? Et jusqu'à présent, il vous a fait plutôt faux bond. C'est pour ça qu'on. Ça veut dire qu'il faut chercher une explication. Ça veut dire qu'il n'a pas très bien compris. C'est pour ça qu'on se permet d'insister et d'insister encore pour que vous clarifiez le plus possible.
Non, mais j'entends bien, je comprends très bien. Et vous savez très bien que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. La question, elle n'est pas là. La question, c'est que par rapport à ce que tu me disais, Michel, à l'instant, de dire effectivement, il y a des gens bien à l'UMP, je lui réponds que qu'être de droite, c'est pas forcément soutenir Nicolas Sarkozy. Comme être de gauche, ce n'est pas forcément être adhérent au Parti Socialiste, au Front de Gauche ou à Europe Écologie Les Verts. Il y a aujourd'hui en France des gens qui peuvent avoir des idées sociales évoluées, des idées économiques plutôt de droite, libérales. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas.
Vous connaissez la phrase d'Audiard, hein, il y a des poissons volants, mais c'est pas
la loi du genre. Hein. Exactement.
Est-ce que ce discours n'entretient pas quand même la confusion, l'idée que c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc, et le score d'une Marine Le Pen qui semble quand même qui est la troisième femme de ce scrutin pour l'instant? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de dire, bah, après tout.
C'est pas moi qui fais le programme du Parti Socialiste. C'est pas moi qui fais la campagne de François Hollande. Moi, si j'étais le conseiller politique de François Hollande, je lui dirais de faire une vraie campagne de gauche. D'accord? Je vois pas pourquoi il remet en cause les 60 ans de la retraite. Je vois pas quelle lubie. S'il est vraiment un homme de gauche, et vous aviez raison dans mon propos tout à l'heure, si effectivement François Hollande réaffirme, s'il veut réunir le peuple de gauche, qu'il réunisse le peuple de gauche. Mais qu'il n'aille pas essayer d'aller convaincre les centristes qui pourraient récupérer, chasser sur les terres de François Bayrou ou du centre droit, pour essayer de gratter quelques points. C'est tout. Moi, je demande à François Hollande d'être un candidat de gauche. Je demande à Nicolas Sarkozy d'être un candidat de droite. Et après, nous verrons bien la position de François Bayrou comme candidat du centre ou central. Et on se définira par rapport à ça. C'est pas nous qui brouillons les pistes. C'est effectivement les stratégies ou les contre-stratégies de certains membres du Parti Socialiste ou des certains membres de la droite.
Est-ce qu'on peut faire un projet politique en mettant systématiquement la barre au milieu? On prend à la droite, on prend à la gauche, on se met au centre, on fait une moyenne, on fait une division, et puis voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Selon les propositions qu'on peut faire, oui. Vous voyez, quand je discutais avec un type, pourtant qui est loin de moi, et qui est plutôt de gauche, qui s'appelle Pierre Levade. Voilà, Pierre Levade, c'est vraiment très loin, un banquier.
Bonne fréquentation, Crédit Lyonnais.
Crédit Lyonnais, oui. D'accord, j'ai discuté économie avec lui, et on passait une soirée un peu sympathique, on discutait librement, et je me suis rendu compte que ce type, qui était pourtant proche du Parti Socialiste, c'est moins qu'on puisse dire, avait des idées quand même sur le libéralisme économique, pour moi, très 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 à droite. Je me suis dit, mince, le type est socialiste, il fait partie des réseaux penseur économiste du Parti Socialiste et les économiques très à droite. Ça a posé des questions par rapport à ça. J'ai discuté avec une autre personnalité qui s'appelle Jean Lassalle, député des Pyrénées...
Atlantique,
d'accord. Qui est plutôt étiqueté centre-droit. Et qui, lui, sur la politique sur les banques, lui, il est pour taxer les banques directement. En disant, effectivement, il faut taxer les profits des banques. il faut pouvoir taxer l'ensemble des grands capitaux. Il avait une position très à gauche par rapport à l'appartenance de la droite d'où il venait. Oui, je crois qu'aujourd'hui...
On lui doit aussi le passage de camions dans sa vallée, là-bas,
oui, du côté du Sancor. Oui, d'accord, il ne faut pas limiter. Il faut, à un moment donné...
Non, mais pour mémoire.
Tu voyais, si on a un vœu à faire en ce 27 décembre, c'est effectivement de s'ouvrir l'esprit.
Oui, et par rapport à ça. Une grande boîte d'efferal grand, c'est pas très clair quand même.
Mais parce que bon, Michel Guéraud,
on parlait.
Oui. Mais qu'est-ce qui est pas clair, Rafi? Allez-y.
Allons-y.
On va pas refaire le débat.
L'émission avance et c'est vrai que notre invité de cette période de Noël est aussi délégué au tourisme, à la valorisation des espaces communautaires périurbains, à l'agriculture périurbaine, à la civiculture et à la viticulture. Oui, tout à fait.
Eh ben, raté, parce que j'ai plus mandat, Michel.
Oh mince,
Je suis toujours délégué au tourisme. Et j'ai récupéré les fonds européens.
Mince, la civiculture, voilà.
J'ai surtout perdu la viticulture. Autant que la civiculture, vous savez, bon, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. On m'a expliqué que c'était les arbres. J'aurais préféré les plantes. Mais la viticulture, je connaissais un peu. Vous voyez, donc j'ai perdu la viticulture, la civiculture. Et j'ai perdu les. Donc maintenant, je suis délégué au tourisme et aux fonds européens.
Plus sérieusement, l'homme politique central que
c'est
vous
sérieux,
êtes.
C'est sérieux, les fonds européens,
non,
Michel.
L'homme politique central que vous êtes doit être enchanté de cette co-gouvernance à la Marseillaise avec une mairie à droite, une communauté urbaine à gauche et finalement on met la barre à peu près au milieu, on avance on fait des synthèses. C'est satisfaisant ce fonctionnement
Je dirais que c'est pas mal.
D'aucuns disent que c'est plutôt bloqué quand même.
Pourquoi bloqué? Sur quoi? Sur quel dossier?
La gouvernance de Marseille.
Attendez. Le projet du vieux port.
Bah, c'est semi-piéton. Est-ce que... on fait pas piéton, on fait semi-piéton.
Mais heureusement. Attendez, je veux bien qu'on fasse tout le centre-ville piéton.
Un peu de piéton.
Non, mais attendez, je crois que le projet proposé par le président Caselli est proposé par Jean Viard, qui n'est pas le dernier des imbéciles en matière d'urbanisme, parce que c'est quand même le type qui a réfléchi. D'accord?
Oui.
Rafi, vous n'êtes pas d'accord?
Ah, si, ben,
on est d'accord.
Écoute,
on est tous d'accord que Jean Viard n'est pas la moitié d'un imbécile.
Il a écrit des livres.
Voilà, c'est un sociologue reconnu sur la place marseillaise qui s'est
engagé. De Jean-Noël Guérini, on en parlera tout à l'heure. Allez-y.
De qui? De Jean Viard?
Oui.
De Guérini.
Je pourrais aller faire pipi à ce moment-là? Non, c'est une blague. Mais à partir de là, voilà, bon, on a un projet. Je pense que c'est la gouvernance partagée telle que le propose et gérée par Eugène Caselli qui a la manière de faire ça est une chose assez intéressante. Nous avons la ville phare qui est à droite. Malheureusement, on aurait pu très imaginer qu'elle devienne à gauche. Elle est à droite. Et la gestion qui se passe avec l'ensemble des 18 communes, gérée de 18 communes. Les communes, Cassis n'est pas une commune de gauche. Gémenos n'est pas une commune de gauche. D'accord? Nous arrivons à gérer avec des communes de gauche, avec des communes de droite, une communauté urbaine et les projets avancent.
Par exemple, celui d'un tramway, là, d'un petit bout de tramway qui va faire 500 mètres.
Mais là, c'est pas un problème de gouvernance partagée, c'est un problème d'orientation. Vous savez, je me suis opposé à ce projet-là.
Les gens en veulent.
Le Parti Socialiste en veut. Le Parti Socialiste aurait pu voter contre. Europe Écologie et le Modem ont voté contre. Attendez, soutenu par des maires d'arrondissement socialistes.
Oui.
Voilà.
Dans une logique de co-gouvernance.
De co-gouvernance, Michel. Parce que le maire de secteur, que je nommerai pas ici, mais que tout le monde connaît du premier secteur, aurait pu dire non. Non. Non, voilà. Je m'oppose à que sur mon secteur, il y ait une dépense pharaonique pour rejoindre la rue de Rome à Castellane. Nous l'avons fait, nous, Benamias, oui. Madrol, avec les copains des Verts.
Je rappelle quand même que le maire de secteur à Marseille, avec la loi PLM, c'est juste un super président de CIQ. Hein. Il n'a pas le pouvoir de refuser.
Mais alors, symboliquement, c'est important, la politique se fait aussi. Si Patrick Mennucci, qu'on nomme là, aurait dit non, je crois qu'il y aurait eu des échos au-delà simplement de l'hémicycle de la communauté urbaine. Je crois qu'à un moment donné, la gouvernance partagée s'est fait aussi avec des hommes et des femmes qui doivent avoir du courage politique. Patrick a du courage politique. Vous savez que c'est quelqu'un qui a, pour moi, beaucoup de valeur pour Marseille. Simplement que sur des sujets importants de dépenses publiques, il aurait pu réagir en disant « Non, ce projet-là, je ne le porte pas ».
Alors, lors de la dernière municipale, vous avez hésité, vous avez pesé le pour et le contre entre Guérini, Gaudin, Guérini. Et ça a été Guérini, en particulier sur un dossier, celui de l'incinérateur. Vous avez eu le sentiment d'être floué là-dessus. L'incinérateur fonctionne.
Est-ce que vous croyez
Il ne fait pas de méthanisation.
Michel, avec l'histoire aujourd'hui qu'on sait par rapport à cet incinérateur.
En plus,
est-ce que honnêtement une personne de bonne foi peut dire aujourd'hui qu'il n'a pas été floué sur le dossier de l'incinérateur?
Ceux qui étaient au courant.
On aurait imaginé. Oui, bien sûr, ceux qui étaient au courant, mais j'étais pas dans les confidences de certains. Vous non plus, Rafi, ni Michel, j'espère. Je suis sûr que non, parce que sinon, il n'aurait pas écrit tout ce qu'il a écrit dans le Ravi. Mais à partir de là, il est clair, effectivement, qu'on a tous été baladés sur ce dossier de l'incinérateur. Et ce qui donne encore plus de force à mes propos, parce que s'il y a bien une personne qui, dès le départ, a été opposée à l'incinérateur, d'accord, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille ou à Fos-sur-Mer, c'était le groupe que je présidais, le groupe des Verts au conseil municipal avec Joël Boulet. Nous étions deux. Rappelez-vous et reprenez effectivement les archives du conseil municipal. Et je me souviens d'un article qui était sorti, oh là, dans le quotidien, le grand quotidien marseillais, etc., où on me mettait en baisse parce que j'attaquais Jean-Claude Gaudin, vous souvenez, le panneau baromètre, sur l'incinérateur. Mais faut voir qu'est-ce que c'était le dossier d'incinérateur. Donc aujourd'hui, je continue à dire que le mode d'incinération pour les ordures de Marseille ne me convient pas. Je considère que ça continue à être une erreur. Je considère qu'avant de parler d'incinérateur, il faut parler de collecte sélective, il faut parler de tri sélectif, il faut parler de méthanisation. Il faut pouvoir mettre en place effectivement une vraie politique de tri sur l'ensemble de l'agglomération marseillaise. Et nous verrons bien à la fin, mais c'est trop tard, parce qu'il faut nourrir. Mais ce que j'avais dit déjà, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, il faut nourrir ce four de 300 000 tonnes, d'accord ? Donc il faut créer... Voilà, je vois l'heure qui tourne, mais voilà, c'est une passion, mais l'incinérateur, c'est une erreur.
Alors,
voilà.
L'incinérateur est une erreur, vous avez évoqué le mot tout à l'heure, on a été floué par Jean-Noël Guérini, sous-entendu.
Pourquoi Jean-Noël Guérini ?
Parce que c'est lui qui... Non, c'est pas par Jean-Noël Guérini, la communauté urbaine ?
Pourquoi par Jean-Noël Guérini ?
Parce que c'est le patron des socialistes du département, et que c'est aussi le patron des socialistes.
Ça vous je comprends pas pourquoi Jean-Noël Guérini.
Parce que Jean-Noël Guérini, l'affaire qui sort en ce moment, c'est celle de l'incinérateur. Jean-Noël Guérini était contre l'incinérateur. La communauté urbaine a été gagnée par les socialistes. Ça vous a pas échappé?
Oui, c'est Eugène Casil, président de la communauté urbaine.
Oui, depuis peu.
Non, depuis le départ.
Oui, depuis peu.
Non, mais d'accord, depuis le départ de la communauté urbaine, depuis qu'on a gagné, c'est Eugène Casil, le président.
Oui. Sous influence. Oui,
par ailleurs, il y a aussi, vous avez vu la presse, hein, il y a
mais on dirait qu'il y a une chaîne qui s'installe dans le plateau, moi
je suis là, je vous écoute, mais je sais pas à quoi vous jouez.
Non, mais pas du tout. Jean-Noël Guérini, quel rapport, à l'heure où on parle, d'accord, le 27 décembre, quel rapport entre l'incinérateur et Jean-Noël Guérini?
Mais le rapport, il est simple, c'est-à-dire qu'un de ses proches conseillers dit que Jean-Noël Guérini, en fait,
jouait double jeu.
Non, mais c'est les déclarations de M. Nabitz, je suis pas là, je suis pas l'avocat. J'en prends acte. Voilà. Aujourd'hui, sincèrement, et c'est pas, je n'en sais rien.
D'accord, vous n'en savez rien.
Qu'il y ait des problèmes, que ça soit pas clair, que ça soit pas transparent, là-dessus, on est tous d'accord. Je ne sais pas aujourd'hui, sincèrement, les responsables sont où. Je doute, et là, je vais vous dire un truc, je doute si, effectivement, Jean-Noël Guérini ou d'autres du Parti Socialiste aient eu à tremper dans cette histoire-là, je doute que l'autre côté, l'autre camp, n'est pas eu non plus à gérer des problèmes du même genre.
L'émission avance, Bayrou a dit, si vous voyez le spectacle que donne le PS aujourd'hui du haut en bas de l'échelle avec de terribles accusations de corruption dans tous les sens, etc., il est passé avec un seul parti. Donc corruption, probité en politique. On est dans les Bouches-du-Rhône, les affaires judiciaires, Jean-Noël Guérini, le PS au National lui demande de démissionner, il est toujours en poste.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous êtes allié avec le Parti Socialiste? Vous avez une position?
Oui, moi j'ai une position. Il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il faut que la justice aille vite. Je suis toujours effaré quand il y a des mises ou des suspicions de condamnation, etc., que la justice mette... Je demande, et je l'ai dit, je demande au juge du chêne d'aller vite, de nous dire où sont les responsabilités, qui a pris les décisions, qui a couvert les décisions, et qu'on ait... En matière...
Au-delà du juge du chêne, vous avez un point de vue sur cette affaire Jean-Noël Guérini? Vous dites quoi? Jean-Noël Guérini doit démissionner?
Non, je ne dis pas ça. Je dis que voilà, c'est pas moi. Il y a des conseillers généraux. Les conseillers généraux prennent leurs responsabilités.
Non, mais vous-même, en tant que citoyen de Marseille...
Ah, moi, citoyen, je pense qu'aujourd'hui...
Du département des Bouches-du-Rhône.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile que Jean-Noël Guérini reste président du conseil général dans la situation où il est aujourd'hui. C'est tout. Je ne dis pas qu'il démissionne.
Son frère est mis en cause également par le juge du chêne. Vous connaissiez Alexandre Guérini?
Ah non, je l'ai jamais rencontré de ma vie.
Durant les municipales, vous l'avez jamais croisé?
Jamais. Non. J'aurais bien voulu le reconnaître, j'ai vu en photo une fois, mais j'aurais aimé le rencontrer, mais j'ai jamais rencontré.
Vous n'avez jamais rencontré Alexandre Guérini?
Non. Pourquoi vous pensez que...
Non, mais parce que sur ce plateau, depuis cette affaire, personne ne connaît Alexandre Guérini, c'est assez stupéfiant.
Mais pourquoi voulez-vous que je le rencontre?
Vous avez négocié, parce qu'il y a aussi cette partie-là des élections municipales. Vous avez rencontré Jean-Noël Guérini, vous avez rencontré ses conseillers, son entourage, vous avez discuté pour le deuxième tour, et vous me dites aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas d'opinion sur Jean-Noël Guérini au niveau des affaires, connaissez pas son frère Alexandre Guérini.
Mais vous êtes surprenant.
Non, c'est vous qui êtes très surprenant, Christophe Padrol. Alors soit vous répondez, soit on continue sur la langue de bois.
Mais je ne vois pas pourquoi. Quand je vous dis,
Quand je vous dis, parler toi de toute l'émission.
Mais non, mais je vous dis très clairement que dans la situation aujourd'hui, où est Jean-Noël Guérini, je pense qu'il est difficile qu'il reste président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, vu l'image qu'il peut donner. Première chose, je vous dis qu'il y a des conseillers généraux, aujourd'hui, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. D'accord ? Je vous dis que je n'ai pas rencontré Alexandre Guérini pendant les municipales, parce que mon interlocuteur dans les discussions, c'était Patrick Minucci, directeur de campagne de Jean-Noël Guérini. Je vois pas pourquoi j'aurais rencontré
Alexandre. Vous êtes étonné de tous ces dossiers qui sont... De tous ces dossiers qui sortent, les écoutes, tout ça, vous êtes étonné.
Je suis effaré sur ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Mais personne, même vous, journaliste, ce qui se passe aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et d'ailleurs dans d'autres départements, c'est effarant, d'accord ? Tout ce qui sort aujourd'hui dans les écoutes. Mais je vois, je suis assez étonné de ce dossier aussi, j'allais plus loin. J'ai l'impression qu'il y a dans ce dossier d'autres personnes qui ont été nommées. Un ancien préfet des Bouches-du-Rhône, un ancien grand patron du 440. D'accord ? J'aimerais qu'on aille jusqu'au bout de l'enquête. J'entends très bien les... Je voudrais que la justice aille vite. Quand un ancien préfet est nommé dans les écoutes téléphoniques, que ce préfet soit entendu. C'est pas gênant. Il est effectivement au château près de Sarkozy aujourd'hui. Quand j'entends effectivement qu'un grand patron du 440 est nommé dans ses écoutes... Le patron de Veolia,
d'accord. Le préfet, c'était le préfet Frémont.
Voilà, donc à un moment donné, que ces gens-là, que la justice... Qu'il y ait une transparence globale et que chacun prendra ses responsabilités. Ce n'est pas de la litote, Rafi, c'est... Et je rentre pas dans... Là-dessus, je pense qu'à un moment donné... On ne peut pas jeter l'anathème uniquement sur une personne et que sur un système. Je pense que le système est beaucoup plus compliqué de ce qu'on voit aujourd'hui.
Michel Guéraud.
Est-ce que Marseille et son agglomération peuvent sortir de cette histoire-là, au moins à l'échéance de moyen terme, qui est celle des municipales qui se profilent ? Est-ce que cette ville peut changer politiquement ou est-ce que les choses sont bloquées ?
C'est une nécessité, Michel, c'est une nécessité. C'est pour ça que je l'ai dit. Il faut effectivement qu'on tourne la page des affaires pour que la justice et qu'on tourne la page de Godin. Vous voyez, les deux ce sont deux choses différentes. Les affaires, je pense qu'il faut à un moment donné retrouver un climat serein pour que la politique revienne et que ça soit pas que la politique soit faite sur des projets et non pas dans la colonne des faits divers ou dans
avec les
mêmes
par exemple Mme Wisniewski réclame que tous ceux qui ont eu affaire
je finis. Ensuite, il y a l'histoire Godin. Je pense qu'aujourd'hui, Jean-Claude Godin a fait ce qu'il pouvait en tant que maire. Benamia s'est prononcé par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut renouveler l'équipe municipale. Il faut redonner une dynamique à Marseille et une dynamique qui soit faite sur autre chose, sur d'autres valeurs. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on avance. Il faut qu'on sorte de l'ère Godin. Il faut qu'on sorte de l'ère des histoires, même remontons jusqu'à Defer. Il faut qu'on donne un nouveau visage à Marseille.
Pourquoi ne pas appliquer à Marseille ce que vous souhaitez appliquer au niveau national, c'est-à-dire essayer de prendre à gauche,
Je le souhaite. Pas à gauche, à droite. Je souhaite aujourd'hui... Vous savez,
pas à droite
parce que je pense qu'il y a des gens... Je me souviens de l'histoire Vigouroux, quand il avait pris Patrick Senior, quand il avait pris Armenante, quand il avait pris...
Ça, c'est une tradition de faire l'avait fait également.
Et je trouve qu'effectivement, il y a des gens qui sont très bien. Je discutais l'autre jour avec un responsable d'entreprise de la jeune chambre économique de Marseille. Qui est plutôt à droite, centre-droit. Moi, c'est un type avec qui je serais prêt à travailler parce que je pense qu'il faut pouvoir rassembler le maximum de gens. Mais nous verrons bien. Je ne serai pas candidat à la tête de liste pour la ville de Marseille. Par contre, je serai partie prenante de ce qui va se passer pour l'avenir de Marseille parce que c'est une ville que l'on aime.
Je reviens à ma question. Wisniewski disait, il faut éloigner de la politique tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin avec Jean-Noël Guérini. Vous êtes aussi radical ou vous dites non, finalement, tournons la page de cette affaire et avançons ?
Sincèrement, sachons qui est coupable, qui est responsable, qui a fait quoi, et avançons. Voilà. D'accord ? Parce que si on commence à... Oui, allons jusqu'au bout, et Laurence a raison de dire ça, Laurence Wisniewski a raison de dire ça, sur le fond, mais avançons le plus loin possible, mais que la justice fasse rapidement ce boulot. Vous savez, là j'ai vu qu'il n'y a rien à voir, mais Pierre Mauroy a été condamné la semaine dernière pour une affaire qui remonte à 20 ans en arrière. Oh, on est sur quelle planète on est ? 20 ans en arrière, sur une histoire de... Je ne sais même plus l'histoire, mais Pierre Mauroy, à son âge, qui est condamné sur une histoire qui remonte à 20 ans. Est-ce qu'on va traîner l'affaire, entre guillemets, Guérini, pendant 20 ans pour Marseille ? Je ne le souhaite pas. Je souhaite que la justice aille vite, qu'il y ait des décisions qui soient données, que la politique fasse son travail, mais qu'on redynamise un peu Marseille avec des équipes nouvelles.
Donc, avec des équipes nouvelles. Donc, vous êtes prêt à travailler avec l'équipe des conseillers généraux qui travaille actuellement avec Jean-Noël Guérini et qui travaillait avant avec Bernardini, qui lui a été condamné aussi.
Lesquels ?
Tous les conseillers municipaux, Carlotti, Pesé.
Les deux noms que vous avez donnés, j'ai aucun problème avec eux.
Donc,
avec Marie-Arlette et Michel Pesé, j'ai strictement aucun problème.
Donc ça ne vous posera aucun problème de retravailler avec eux dans l'avenir, quelles que soient leurs implications de près ou de loin.
Mais je crois que Marie-Arlette s'est prononcée par rapport à Guérini. Je crois qu'il y a des choses qu'on a dit. Je crois que Michel Pesé s'est prononcé aussi. Vous savez, je ne suis pas pour la politique du lave plus blanc. D'accord ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a des responsabilités qui seront nommées, que la justice va nommer. Il y aura, les électeurs se prononceront au moment des élections qui arrivent. Je crois que Marielle Carlotti est candidate à une élection législative. Je crois qu'il y aura certains de ces conseillers généraux que vous nommez qui seront élus, qui seront candidats aux élections législatives. Les électeurs se prononceraient. Je ne suis pas... je suis pas comme certains, vous parliez de Laurent Wisniewski, que j'aime beaucoup aussi, de ceux qui disent qu'il faut laver plus blanc. Vraiment, je suis pour la justice.
Wisniewski, justement, elle s'est trompée de parti. Il faudrait qu'elle rejoigne le MoDem, là, parce que sur les questions économiques, sur la question de le RIN pour sortir du nucléaire, elle semble plus proche, finalement, de Bayrou que de son propre parti, que d'Eva Joly.
Que de qui ?
Eva Joly.
Je sais pas, c'est la meilleure amie d'Eva Joly.
C'est sa meilleure amie, mais évidemment, ils ont des dissensions au niveau du fond.
Vous savez, voilà, vous résumez en votre phrase ce que j'explique depuis maintenant 55 minutes. Je crois que la politique... Nicolas Sarkozy a transformé la politique en France. Il y a, c'est clair. Les Français décideront, est-ce que l'on continue avec Sarkozy ou on ne continue pas avec Sarkozy ? Ils auront deux boutons. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut arrêter avec Sarkozy. Ensuite, ils auront encore deux boutons. Est-ce qu'ils veulent effectivement repartir sur une politique social-dem à la Hollande avec tout ce qu'on a vécu, avec la situation d'un bloc contre un autre bloc, ou un autre bouton, avec François Bayrou, et je finis Michel, à dire voilà, on est capable de construire un axe central avec des gens de bonne volonté. Moi, c'est ce troisième bouton que je choisirais.
C'est-à-dire pas travailler les ouvriers avec les patrons, les banquiers avec les...
Mais arrêtez d'avoir ce schéma-là, Michel. Arrêtez d'avoir ce schéma.
C'est Noël, donc c'est la mais grande c'est réconciliation.
Noël, c'est pour nous, juifs, Yom Kippour, c'est pas maintenant, mais pour les catholiques, c'était Noël il y a trois jours.
On parle de communauté, justement, et on finit l'émission là-dessus. Un débat qui est parti de Marseille, c'est une tradition d'ailleurs, c'est la reconnaissance. Est-ce qu'il faut légiférer sur la reconnaissance, la négation du génocide arménien ? Vous avez une opinion là-dessus, Christophe Madrol ? Je rappelle que c'est la députée Boyer, députée marseillaise, qui...
Alors si c'est Madame Boyer, je devrais être pas d'accord avec ce qu'elle dit. Je suis très embêté par rapport à ce dossier-là. Je pense qu'effectivement, je suis très embêté parce que je suis pour la reconnaissance du génocide.
Ça, c'est déjà en 2001.
Est-ce que je peux finir, Rafi, une phrase?
Non, mais vous allez partir.
Mais vous mettez deux sémites. Rafi, Michel, laissez-moi finir ma phrase, s'il vous plaît.
On n'a plus qu'une minute.
J'ai plus qu'une minute. Je considère qu'effectivement, je suis pour la reconnaissance du génocide arménien par l'État turc, parce que je considère qu'il y a génocide. Je ne sais pas si c'est aux parlementaires français de pouvoir refaire l'histoire et d'avancer des faits historiques comme cela. Je n'en sais rien, je suis entre les deux. Voilà.
Entre les deux, une position de centriste et de MoDem.
Mettez-vous d'accord, centriste ou central ?
Centriste.
Pour les législatives.
Centrale, ça veut dire incontournable.
Merci, Rafi. Incontournable. Merci, Rafi, incontournable.
Dernier mot, législatif, face à Muselier ou face à Menucci ?
Vite. Bonne année à tous.
Non, sérieusement, plus sérieusement.
J'en sais rien, je sais même pas.
L'un ou l'autre ?
J'en sais rien, ce sera, effectivement, ce sera soit dans la cinquième, soit pas contre Minucci, bien évidemment, mais dans la nouvelle circonscription, qui sera un grand rendez-vous, parce que j'ai appris que mon ami Sébastien Barles serait candidat aussi là-bas. Et j'adore mon ami Sébastien Barles.
Voilà, avec un petit peu d'avance, excellente fête de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine avec un tout autre invité. Plein de bonnes choses, bye.
Au revoir.